Rencontre avec un élu, une émission de Marc Tessier-Dorfeuille, directeur général de Compublic, agence de communication institutionnelle, et délégué général du Club de l'Accession à la propriété.
Bonjour Aurélien Taché.
Bonjour.
Vous êtes député du Val-d'Oise, spécialiste des sujets de logement. Alors, je vous rassure, on va ni parler de coronavirus, ni de 49.3, mais aujourd'hui, on va parler d'immobilier, de logement et d'habitat. Vous présidez le Conseil national de l'habitat. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le rôle et le fonctionnement de cette instance? Et puis, récemment, le CNH a été consulté dans le cadre d'une réforme des allocations à logement. Est-ce que vous pouvez nous dire quel regard vous portez sur la mise en œuvre de cette réforme?
Écoutez, d'abord, je suis très heureux d'être à votre micro parce que parler de logement est toujours un plaisir et c'est vrai qu'en ce moment, il y a tellement d'autres sujets anxiogènes que je suis heureux qu'on puisse aller dans le détail sur ces questions. Alors effectivement, moi, je préside le Conseil national de l'habitat, qui est un organisme qui est rattaché finalement au ministre du Logement et qui est consulté sur l'ensemble des réformes et des textes réglementaires qui viennent modifier la politique du logement, notamment à chaque fois que des modifications sont apportées sur la question des aides au logement, le CNH est finalement consulté. Et puis, moi, j'ai souhaité aussi qu'au-delà de cette mission finalement un peu formelle, on puisse impulser des travaux, car le Conseil, nous-mêmes, est prendre des initiatives pour faire vivre le débat sur les questions de logement, car le Conseil national de l'habitat est composé des meilleurs experts des questions de logement, de tous les acteurs qui gravitent dans cet univers, la Fédération des promoteurs immobiliers, la Fondation Abbé Pierre, l'Union sociale pour l'habitat, les architectes, tout le monde est au CNH.
Donc on peut vraiment... Et vous réunissez souvent ?
Eh bien écoutez, on essaye, au-delà des saisines de textes qui arrivent à peu près toutes les 6 semaines, de se réunir aussi pour faire des propositions. Et moi, j'ai pu installer sous ma présidence 2 commissions, une qui porte sur la question justement de l'offre et de la construction, une autre plutôt sur le parcours le parcours résidentiel et les aides et l'accès au logement. Donc, dans ce cadre-là, justement, nous avons donc été saisis de cette fameuse réforme des APL. Quel regard je porte ? Moi, je pense qu'effectivement, cette idée des APL en temps réel est une bonne idée. Quand on a un changement dans sa situation, il vaut mieux que l'administration puisse y répondre rapidement pour qu'on puisse avoir un niveau d'aide qui correspond vraiment à la situation qu'on vit à un instant T. Et donc, c'est le principe. Plutôt que d'avoir une prise en compte de vos revenus N-2 d'il y a 2 ans, vous avez donc une prise en compte de vos 3 derniers mois. En revanche, je pense...
Enfin, cette comptabilité, elle sera... faite quasiment en temps réel maintenant.
Elle sera faite en temps réel, avec un changement, effectivement, une actualisation tous les 3 mois, c'est ça qui est prévu. Par contre, je pense que nous avons à regarder un petit peu, pour certaines catégories de la population, quels peuvent être les impacts. Je pense notamment aux jeunes qui rentrent dans la vie active et qui peuvent avoir besoin peut-être d'être accompagnés pour cela et qui, si on ne faisait rien, pourraient être un peu perdants, si on peut l'exprimer ainsi, dans le cadre de cette réforme. Donc ça, c'est quelque chose qui a été pointé par un certain nombre d'acteurs auxquels moi je suis sensible. Nous avons eu l'occasion de le rappeler lors du dernier Conseil national de l'habitat. Et puis ensuite... il va y avoir la question du revenu universel d'activité et le fait de savoir s'il doit comprendre les aides au logement. On est plutôt en train de se diriger vers cela. Là aussi, le Conseil national de l'habitat fera des propositions précises pour quand même garder la spécificité de ces aides. Il faut que, par exemple, les propriétaires puissent continuer de les toucher directement dans un certain nombre de cas pour éviter les impayés. Il faut que... nous nous posions aussi la question à l'occasion de cette réforme de savoir si les aides au logement aujourd'hui sont suffisamment lisibles, répondent aux questions d'inégalité. J'ai lu avec attention, comme vous sûrement, le rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir et qui pointe un certain nombre de difficultés. Peut-être que avant de se demander s'il faut tout fusionner, on pourrait reposer la question des aides au logement, de la manière dont elles doivent être calculées et attribuées.
Finalement, ce CNH, c'est un peu ce qui a été mis en place ces jours-ci dans les cabinets ministériels. C'est l'aide à l'accompagnement des lois, puisqu'il y a l'aide à l'exécution des lois. Il y a des conseillers qui viennent d'arriver. Le CNH, depuis 1983, fait un peu ce travail. Il y a une loi qui est votée. On regarde peut-être le conseil auprès du ministre du Logement sur ce que vous venez de dire. Peut-être qu'il y aura des perdants du côté des étudiants. Comment essayer de revaloriser cela, faire des exceptions à la règle, faire de l'accompagnement des lois?
Exactement. On est vraiment dans cette mission-là. Comment les experts, la société civile, ceux qui les acteurs qui sont vraiment au quotidien sur le plan opérationnel en matière de logement peuvent accompagner le ministre, le gouvernement, finalement, dans la mise en œuvre des lois. Et c'est vraiment ça, notre mission.
Vous êtes élu du Val-d'Oise, donc en Ile-de-France, dans un département fortement urbanisé avec des enjeux de logement que vous connaissez bien. On avait d'ailleurs fait une visite terrain dans le cadre du Club des maires de la rénovation urbaine ensemble. Quelle similitude vous retrouvez entre votre circonscription, le Val-d'Oise, et les problématiques portées par le Conseil national de l'habitat ?
Bon, elles sont nombreuses parce que, bon, évidemment, c'est un département fortement urbanisé. Moi, je suis élu à Cergy, qui est une ville populaire. Donc, sur la question, par exemple, des aides et du parcours d'accès au logement, il faut regarder les choses de près, puisque ça a des impacts très concrets pour les familles, pour ces jeunes. Cergy est aussi une ville étudiante avec l'Université de Cergy-Pontoise. Donc là, par exemple, sur les sujets d'aide au logement, évidemment, les liens sont très forts, mais pas uniquement. On travaille aussi beaucoup sur la question de la construction. On en parlera peut-être un petit peu après, puisque le CNH travaille sur un rapport notamment. Moi, je vois bien comment, dans une ville comme Cergy, vous avez une contradiction très forte entre les besoins de continuer à construire parce que vous avez des loyers qui augmentent, parce que vous avez une population qui est de plus en plus demandeur, finalement, de logements sociaux parce qu'elle n'arrive pas à se loger dans le loyer libre. On a même des chefs d'entreprise qui me disent, moi qui viennent me voir, qui disent, monsieur le député, aujourd'hui, je n'arrive plus à recruter à Cergy parce que avant, les salariés que je recrutais venaient d'un peu plus haut dans le nord de la France, enfin, ou de Picardie, mais les loyers sont trop chers à Cergy, donc ils ne veulent pas venir. Donc, on a des questions très concrètes comme ça, et dans le même temps, des habitants qui vous disent, oui, mais moi, monsieur le député, je suis venu m'installer à Cergy-Pontoise il y a une trentaine d'années. J'habitais dans les Hauts de Cergy. C'était un coin totalement vert. Et maintenant, vous n'arrêtez pas de construire. Et comment, moi, j'ai mon cadre de vie qui est préservé. Donc, ça, c'est des questions très concrètes en tant qu'élu auxquelles on est confronté et auxquelles, évidemment, la politique du logement doit apporter des réponses. Parce que moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que stopper la construction serait une bonne chose au regard de la situation de mal-logement que connaît le pays aujourd'hui. Évidemment, il faut construire de manière raisonnée, il faut construire mieux, mais il faut continuer à construire. La rénovation ne suffira pas à régler les problématiques de logement, c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes concitoyens.
Ouais, c'est souvent ces équations complexes à laquelle on trouve peu de solutions, entre un refus de la densification. Vous aviez lancé une sorte de tribune avec Jean-Philippe Ruggieri dans les Échos, justement, en disant qu'il faut lancer aujourd'hui une densification urbaine. Mais vous venez de le dire, d'un côté, il y a ceux qui sont là depuis 30 ans qui préféreraient, on va dire, des arbres et des petits oiseaux. Puis, en même temps, un loyer moins cher, la seule façon d'y arriver, c'est de densifier, peut-être de surélever. Comment arriver, en effet, notamment dans les zones tendues comme l'Île-de-France, à pousser à avoir un vrai plan d'urbanisme, d'autant que je crois que d'ici 2040, on va accueillir encore 7 millions de personnes de plus en Ile-de-France, ce qui est énorme. Donc, il faut faire l'acceptation de cette densification tout en étant très écologique dans la construction.
C'est ça qui est devant nous, en effet, et qui, malheureusement, est aujourd'hui parfois un peu caricaturé. Nous sommes à quelques jours maintenant des élections municipales, la surenchère de certains candidats pour dire « ne vous inquiétez pas, je serai le maire qui ne construira plus, y compris dans des grandes métropoles et y compris même dans la capitale française », au regard de justement, enfin on justifie souvent cela au nom d'impératifs écologiques, me semble dangereuse.
Et malheureusement, ça a démarré aux dernières municipales. 50 maires en Ile-de-France sont engagés pour être élus à ne plus construire. C'est vrai que là, il y a un vrai problème. On a besoin de logements, tout le monde en veut, et les maires disent « moi, je ne vais pas construire ». Comment on va trouver une solution à cela ?
Moi, je crois qu'il faut réenchanter l'urbain. Il faut dire à nos concitoyens que la ville est porteuse de solutions, y compris sur le plan écologique. Si on veut arrêter l'artificialisation des sols, si on veut arrêter un étalement urbain qui, effectivement, peut, dans certains cas, être problématique, on aurait besoin de sanctuariser certaines terres agricoles, on aurait besoin... Eh bien, il n'y a pas 50 solutions. Il faut construire là où sont les besoins, là où il y a l'emploi, c'est-à-dire dans les métropoles, ou les villes moyennes aussi, mais... Penser qu'on va arrêter démétropoliser, comme diraient certains aujourd'hui, la France, c'est à mon avis une grave erreur. En revanche, pour que les Français aient envie de cette ville, la trouvent à nouveau désirable, il faut démontrer que la densité n'est pas forcément synonyme de ce qu'on a pu parfois voir par le passé, avec des grands ensembles qui étaient esthétiquement très discutables, avec un confort de logement qui n'était pas au rendez-vous. Là, on peut imaginer vraiment je crois, de construire des immeubles zéro carbone, des choses avec des services, avec des véritables villages verticaux, comme le dit parfois justement Jean-Philippe Ruggeri, avec qui j'ai co-signé cette tribune. Je crois que les Français n'ont pas forcément conscience de ce qui peut se faire aujourd'hui en matière d'éco-construction, en matière effectivement de logements qui sont extrêmement agréables à vivre, tout en étant compris dans une forme de densité qui leur permettra en plus d'accéder à ces logements pour des coûts moindres, parce que pour moi, l'engagement qui doit être pris par les acteurs de la construction, si on les encourage à construire plus,
c'est de baisser les prix.
C'est de baisser les prix.
Avec cette schizophrénie de temps en temps sur le prix du foncier, mais on ne viendra pas sur un débat qu'on avait abordé ici, entre le besoin des élus de vendre cher, ce qui surenchérit bien évidemment le foncier, qui surenchérit le prix de l'immeuble. Quels sont les prochains rapports du Conseil national de l'habitat que vous allez sortir, on va dire, en 2020?
Eh bien, écoutez, il y en aura justement un qui portera sur cette question de la nécessité de continuer à construire dans les zones dites tendues sur le plan immobilier et peut-être même parfois en détruisant des logements dont on n'arrivera pas à les rénover pour des coûts acceptables et à faire revenir des populations dans certaines territoires où il sera difficile d'imaginer que ces logements puissent être repris. C'est un discours qui peut paraître un peu à contre-courant de ce qu'on entend en ce moment sur la rénovation qui serait l'alpha et l'oméga, sur un certain discours néo-rural. Mais moi, je crois qu'il faut pointer ça et avec des propositions précises. Est-ce que en France, après avoir eu un objectif national de construction de logements sociaux, il en faut un sur l'ensemble de la construction et comment encourager la densité?
Peut-être lancer à votre initiative un grand Grenelle du logement pour les années qui viennent. Mais on voit bien qu'on est face à des grandes contradictions, des besoins aujourd'hui des populations très contraires. Merci infiniment.
Merci
de votre présence ce matin. Et on regardera avec beaucoup de plaisir les conclusions du Conseil national, dont on vient de comprendre qu'il est un bras armé du ministre du Logement dans un dialogue, bien évidemment, avec les acteurs au quotidien. À très bientôt pour une autre tribune. Merci.
Rencontre avec un élu, une émission de Marc Tessier-Dorfeuille, directeur général de Compublic, agence de communication institutionnelle, et délégué général du Club de l'Accession à la propriété.